RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Fabrice, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Comment allez-vous ?
Comme un petit homme vert tout en forme.
Très bien, oui, parce que nous allons en parler aujourd'hui. On s'intéresse au monde des ovnis, de la vie extraterrestre et des croyances en compagnie du sociologue des sciences Pierre Lagrange, l'un des rares experts français reconnus de la question. C'est donc le thème de notre émission ce soir.
Ben oui Christophe, et en fait on sait que tout le monde a son opinion sur ces sujets à controverse, y compris d'ailleurs sur l'attitude de la science ou des médias dans le débat. Il semble toutefois possible de pouvoir aborder sereinement ces questions d'OVNI, de vie extraterrestre ou de croyances en utilisant la méthode scientifique, sans que cela ne représente pour autant un échec de la science au profit de l'irrationnel. Alors depuis quand l'homme s'intéresse-t-il aux OVNI? Où en est la recherche d'une vie intelligente dans l'univers? Que disent de nous ce type de questionnement? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons à l'un des plus grands spécialistes en la matière, vous l'avez précisé Christophe, le sociologue des sciences Pierre Lagrange, expert au GEPAN notamment sur ces questions-là, enseignant à l'école d'art d'Avignon et chercheur associé au laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, c'est le CNRS. Pour notre invité, ces questions d'OVNI et de vie extraterrestre sont depuis toujours un merveilleux sujet d'étude sociologique et un excellent moyen de questionner la science. C'est pourquoi on lui doit de très nombreuses interventions dans les médias, d'innombrables articles faisant autorité ou la publication d'ouvrages de référence tels que La rumeur de Roswell, Sont-ils parmi nous, La guerre des mondes a-t-elle eu lieu, C'en est que certains, ou encore OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez.
Et il sera d'ailleurs demain au Parc Galéa à 15h.
En direct.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Pierre Lagrange.
Bonjour, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Heureux de vous recevoir donc dans cette émission. Avant de vous retrouver donc en direct demain en chair et en os au Parc Galéa à Taïzoulach à partir de 15h, qu'est-ce qui vous a amené, Pierre, à choisir de travailler sur les ovnis et sur la vie extraterrestre ?
Voilà. Il y a plusieurs raisons. Quand j'étais gamin, ça faisait partie des sujets qui m'intriguaient. La question de la vie extraterrestre, j'ai un peu grandi avec, je dirais. Et sinon, il y a une question de méthode, je dirais. J'ai commencé à faire des études de sciences sociales et je m'intéressais à la question de la croyance. Et le problème, c'est que la croyance, on l'aborde tout le temps, justement en prenant pour fait que ce sont des croyances, c'est-à-dire que ce sont des choses qui des erreurs de raisonnement, des choses comme ça. Et l'idée, en lisant un certain nombre d'anthropologues qui avaient un peu justement commencé à malmener la notion de croyance, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas aborder ce sujet autrement? Notamment, mon idée, c'était de croiser le thème de la croyance avec les outils qui avaient été développés par les historiens des sciences et les sociologues des sciences, parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, la notion de croyance en Occident, c'est quelque chose qui a été construit historiquement. Il n'y a pas quelque chose qui serait naturel, qu'on pourrait appeler la croyance. C'est quelque chose qui est lié à notre histoire. Et donc, j'ai voulu aborder ce sujet par des méthodes qui n'étaient pas appliquées à ce genre d'objet. Et l'autre idée, c'était de se dire, pour justement remettre un peu en question cette notion de croyance, autant prendre un sujet qui est considéré comme un cas classique et même un peu extrême de croyance, comme les ovnis, justement en se disant ce que je trouve fonctionne sur ce genre de sujet, a fortiori ça va fonctionner sur des sujets, sur des thèmes de croyance plus normaux, avec lesquels on a plus de sympathie au sein de la société. Donc voilà, l'idée c'était un peu de remettre en question la façon dont on abordait ce sujet traditionnellement en croisant des objets nouveaux qui n'étaient pas étudiés, les ovnis n'étaient pas vraiment étudiés par les chercheurs en sciences sociales et des méthodes qui en général étaient appliquées à d'autres objets.
Alors justement, vous n'avez pas hésité à mettre les deux pieds dedans, en prenant, vous l'avez dit, un vrai sujet à controverse, les ovnis, plus tard la recherche de la vie extraterrestre, avec ses croyances mêlées. Quand est-ce qu'ils sont finalement devenus à la mode, ces ovnis? On parle du 24 juin 1947?
Oui, c'est ça. Oui. En fait, la question des ovnis, au départ, ce qu'on appelle les soucoupes volantes, c'est né en 1947 aux États-Unis, à la suite de l'observation d'un pilote privé, Kenneth Arnold, qui vivait dans l'Idaho, et qui a observé le mardi 24 juin 1947 à 15 h au-dessus du mont Rainier, qui est un magnifique volcan pas loin de Seattle, donc dans l'État de Washington. Il observait neuf objets, neuf engins pour lui qui volaient dans le voisinage de ce mont Rainier à une vitesse qu'il a estimée à deux fois la vitesse du son, ce qui était totalement impossible à l'époque. Et ces objets étaient bizarres, ils étaient plats, arrondis à l'avant, triangulaires à l'arrière, et ils ne ressemblaient à rien de ce qu'il connaissait comme engin volant. Et il a rapporté ça le lendemain à des journalistes, parce qu'il n'arrivait pas à identifier ce qu'il avait vu. Et puis il s'était posé il avait atterri dans une petite ville qui s'appelle Pendleton, où en gros, si on voulait s'informer, il fallait aller au journal local. Et là, les journalistes ont fait par habitude, ils ont publié un petit article, ils ont envoyé une dépêche de presse, et de façon un peu inattendue, cette dépêche de presse a été répercutée sur tout le territoire américain et a généré une controverse nationale en une heure de temps. Et le phénomène a pris comme ça.
Et juste après, il y a cette fameuse question de Roswell. Je sais que vous l'avez beaucoup étudiée, hein. On le disait avec Christophe en ouverture, vous avez même écrit dessus. Aujourd'hui, c'est très clair qu'on était quoi, sur des ballons moguls et à un moment donné, un espionnage des Russes par les Américains.
Alors l'affaire de Roswell, c'est un petit peu plus compliqué que juste la naissance en 1947, parce que l'affaire de Roswell naît en 1980, elle n'est pas en 1947.
D'accord.
En 1947, ce qui se passe, c'est que il y a un fait divers. Parmi les nombreuses histoires qui vont suivre l'observation de Kenneth Arnold, il y a un fait divers qui est signalé dans le Nouveau-Mexique, comme quoi l'armée aurait récupéré des débris d'un objet étrange. Et cette histoire va disparaître parce que l'armée explique aussitôt que ce sont les débris d'un ballon sonde, donc plus personne n'en parle, et pendant 30 ans, on l'oublie. Cette histoire va ressortir en 1980 parce qu'un des militaires qui était basé à Roswell va conserver l'idée que sa hiérarchie a menti. Et après sa retraite, il va se mettre à parler et il va croiser des ufologues qui vont relancer l'enquête. Et avec l'aide d'un auteur de best-seller, d'ouvrages notamment consacrés au triangle des Bermudes, qui ont eu beaucoup de succès à la fin des années 70, donc ils vont publier un livre qui paraît en 1980, et c'est là que l'histoire décolle. C'est là qu'on commence à parler de Roswell. Alors l'histoire va à nouveau disparaître un petit peu, mais enfin bon, c'est surtout dans les années 90 que cette histoire va connaître une popularité de plus en plus grande, parce que notamment l'armée va être obligée de répondre sous la pression du Congrès américain, et parce que les médias vont s'en emparer, notamment des médias européens et puis des séries télévisées comme la série X-Files dans les années 90. Et en fait, l'histoire va s'installer dans la mémoire collective pour ne plus la quitter. Aujourd'hui, en gros, tout le monde a entendu parler de cette affaire de Roswell, qui est devenue une espèce d'élément central de la culture des ovnis, alors qu'en 1947, c'était un bout d'histoire complètement marginal qui a été... qui a rapidement disparu de l'actualité.
Mais l'expert que vous êtes peut dire aujourd'hui qu'on est beaucoup plus sur une histoire de ballon mogul pour espionner les Russes de la part des Américains qu'un extraterrestre tombé sur Terre.
Voilà, alors il y a deux contextes en fait dans qui se sont construits autour de l'affaire de Roswell. Il y a le contexte d'époque en 1947 où il n'y avait absolument pas toute la culture qui s'est construite depuis autour des extraterrestres. Et donc c'était lié à des tests secrets en marge de la course à l'arme atomique. Donc il s'agissait de savoir si les soviétiques avaient développé l'arme nucléaire ou pas. Mais dans les années 90, cette explication qui va finir par être donnée par les militaires, parce qu'ils l'avaient cachée pendant évidemment des décennies, va tomber dans un contexte nouveau qui est celui de la culture des extraterrestres et des complots sur les extraterrestres qui s'étaient développés entre-temps, qui fait qu'en fait, beaucoup de gens vont accueillir cette réponse qui correspond au contexte de 1947 avec scepticisme, en disant est-ce que l'armée n'est pas en train d'inventer une nouvelle explication pour cacher quelque chose qu'il n'aurait cessé de cacher depuis 1947. Ce qui fait qu'en fait, comme aujourd'hui on est dans une autre culture, l'explication par la guerre froide, en gros par un programme d'espion de la guerre froide, va ne pas convaincre beaucoup de gens qui sont dans un autre état d'esprit.
Pierre Lagrange, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'observations non expliquées actuellement et à qui en fait-on part ?
En fait, il y a des observations, ça continue. Il y a des périodes de ce qu'on appelle vagues qui ont toujours été difficiles à analyser parce qu'on n'a jamais su si c'était vraiment des vagues d'observations ou des vagues d'intérêt collectif pour ces sujets. Et quand, les gens qui rapportent ces phénomènes, alors il y a tout un tas de structures qui existent, de groupes d'amateurs encore qui existent, et puis il y a Internet maintenant qui sert de caisse de résonance à ces sujets. Mais sinon, il y a une structure officielle qui se trouve en France au moins, au CNES, au Centre Spatial, qui existe depuis 1977, qui a été créé donc il y a déjà pas mal d'années, et où un certain nombre d'enquêteurs sont chargés de recueillir les données et d'essayer de les interpréter pour comprendre ce que les gens ont pu voir.
Et est-ce qu'on a, Pierre Lagrange, en tête, justement, dans ces observatoires où, qui recueillent bien les observations, une typologie de celles-ci ? Est-ce que ce sont généralement des boules de feu qu'on voit ? Allez, si on devait avoir un camembert là et qu'on mettait des pourcentages, est-ce que ce sont des lumières dans le ciel, des objets sombres qui se déplacent ? Qu'est-ce qu'on a comme typo ?
La majorité de ce que les gens rapportent, sont des phénomènes assez lointains, soit de nuit, soit de jour, souvent de nuit parce que c'est de nuit qu'on a l'œil attiré par quelque chose qui va se démarquer dans le ciel, quelque chose de plutôt lumineux, comme ça. Mais la majorité, c'est des choses assez lointaines qui, du coup, sont souvent liées au fait que notre culture sur les phénomènes célestes est souvent assez sommaire. La plupart d'entre nous, on n'a pas l'habitude d'observer le ciel. Donc, on est surpris dès qu'on voit quelque chose. Et ensuite, il y a eu différentes classifications qui ont été construites par les gens qui s'intéressent aux ovnis, les ufologues, et qui vont jusque maintenant des cas assez fantastiques d'objets posés au sol et d'observations d'entités, et même aux États-Unis, le phénomène des enlèvements par les extraterrestres est un phénomène qui est d'ampleur nationale depuis déjà le milieu des années 60. Mais en fait, tout le problème pour les gens qui étudient ces sujets, c'est de comprendre s'il y a un lien entre ce que les gens peuvent rapporter comme phénomène lointain dans le ciel, un objet matériel qu'on observe de jour ou une lumière bizarre la nuit, et ces cas de rencontres rapprochées, de rencontres du troisième type ou d'enlèvement, parce qu'en fait, ça c'est notre culture qui a construit une espèce de logique dans tous ces récits, mais pour l'instant, il y a un débat sur est-ce que c'est le même phénomène ou un phénomène similaire qui se manifeste dans l'ensemble de ce qui est rapporté.
On parle des ovnis cette semaine dans C'est votre jour de science. Votre invité, Pierre Lagrange, l'un des rares experts français reconnus de la question.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau, plus beau vu d'en haut. Dans confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers. Mon numéro je suis mal dans ma peau. Je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde.
L'expert.
Bienvenue à tous, on parle des ovnis cette semaine. Les ovnis sera le thème ce dimanche de la dernière conférence de la saison au Parc Galet à Tahuizoulatch. Et pour en parler, Fabrice, vous recevrez au parc le sociologue des sciences Pierre Lagrange, l'un des rares experts français reconnus de la question. Pierre Lagrange qui est d'ailleurs notre invité ce soir en direct par téléphone avant de le retrouver donc demain après-midi au parc. Alors vous parliez, Pierre, avant la pause musicale de cas inexpliqués rapportés par les gens. Ça représente... Quel pourcentage de cas inexpliqués? Certains spécialistes parlent de 2 à 5%.
Alors les statistiques ont souvent varié, ça dépend de la qualité des enquêtes au départ et de ce que les gens rapportent en fait. C'est selon les types de structures qui vont recueillir les faits, les statistiques peuvent varier. Mais en général, au cours des décennies, on toujours tombé autour de entre 7 et 10% de cas qui sont considérés inexpliqués par les ufologues, c'est-à-dire de phénomènes qui résistent à l'analyse des experts.
Eh bien justement, Pierre Lagrange, qu'est-ce qu'on fait de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on sait qu'on ne sait pas?
Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire, parce que y a toute une série de problèmes avec ce genre de phénomène, parce que la science depuis la naissance, on va dire, de la science expérimentale au XVIe, XVIIe siècle, la science a énormément évolué dans certaines directions et elle ne sait plus traiter le témoignage humain. Donc les gens qui s'occupent d'objets matériels, de phénomènes matériels, sont habitués à les produire en laboratoire, mais pas à les recueillir auprès de témoins. Ça marche plus comme ça. Donc, du coup, les scientifiques sont un peu désemparés face à des témoins qui leur apportent avoir vu des faits et ils savent pas trop comment s'en saisir. Et c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a une polémique qui s'éternise sur ces sujets, parce que la science s'est coupée, je dirais, de l'opinion et ne dépend plus du public pour la détermination et la mise en évidence de tout un tas de phénomènes. Il y a eu des polémiques historiques comme la question de l'existence des météorites au XIXe siècle ou encore aujourd'hui l'existence de phénomènes comme la foudre en boule qui sont liés justement à des témoignages, et on voit que chaque fois les scientifiques ont eu du mal à comprendre les phénomènes qui étaient rapportés par les témoins et à les transformer en des faits scientifiques.
Est-ce que vous pourriez nous parler, parce que ça fait partie de ce qui gravite autour de cette thématique, du paradoxe de Fermi, Pierre Lagrange?
Alors ça, c'est un point qui est un petit peu en dehors de la culture ufologique, qui est lié à un autre aspect qui est associé aux ovnis ou au débat sur la vie extraterrestre, qui est la question de l'existence éventuelle d'autres formes de vie dans l'univers. Depuis le 16e siècle, il y a cette idée s'est installée que la Terre est une planète parmi d'autres, dans un univers qui doit fourmiller de formes de planètes ou de systèmes solaires comme le nôtre, mais également de vie. Et en 1950, un grand physicien qui travaillait à Los Alamos, qui a travaillé sur le projet de la bombe atomique américaine, Enrico Fermi, s'est intéressé à ce sujet. En fait, c'était une discussion complètement informelle avec des collègues à Los Alamos au cours de l'été 1950. Et il a fait un raisonnement assez simple que beaucoup de gens font, c'est que si la Terre est un astre banal dans l'univers, qui tourne autour d'une étoile banale dans une galaxie tout à fait quelconque, ben, la vie doit exister en un nombre tellement grand dans l'univers connu, depuis tellement de temps, parce que la vie sur Terre est quelque chose d'assez récent par rapport à l'âge de l'univers, en fait, l'univers doit pulluler de formes de vie et de formes d'intelligence. Et le raisonnement de Fermi, c'était de dire, ben, si y a autant d'extraterrestres, il doit y en avoir tellement qui sont plus développés, plus anciens que nous, que nous devrions avoir été visités depuis longtemps. Ils devraient être ici. Et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Et c'est devenu le paradoxe de Fermi, parce que ces extraterrestres que nous devrions voir partout, on ne les voit pas, ou au moins, quand des gens rapportent des témoignages comme les ovnis, la plupart des scientifiques disent, halte là, on n'est pas absolument pas sûr que ce soit lié à la question de la vie extraterrestre, donc il y a un désaccord complet. Et donc cette question taraude les gens qui s'intéressent à la vie extraterrestre depuis plusieurs décennies, parce qu'ils essaient de comprendre pourquoi on ne voit pas ces extraterrestres qu'on devrait voir. Alors, en fait, moi c'est une question qui m'a beaucoup intéressé, parce que je me suis rendu compte que les physiciens, les astronomes, les exobiologistes avaient une tendance à poser cette question en oubliant l'aspect anthropologique et l'aspect historique. Voilà, il n'y a aucune raison qu'on voit des extraterrestres.
Oui. On a entendu, par contre, dernièrement, que la NASA mettait quelques moyens, renforçait ses techniques pour capter non plus des biosignatures, mais même des technosignatures dans l'univers.
Oui, mais alors c'est ça, c'est le cœur du problème. C'est que l'histoire des sciences, l'histoire des savoirs, l'histoire des techniques sur Terre, c'est lié à l'histoire d'une partie de la vie sur Terre, et dans cette partie de la vie sur Terre qui est la vie humaine, c'est lié à une partie de l'histoire des civilisations, c'est pas l'ensemble des civilisations qui ont développé ça. Donc si sur Terre, nos techniques qui nous conduisent à faire notamment à étudier les signaux qui viennent du ciel est lié à l'histoire surtout de l'Occident et des techniques occidentales, on peut imaginer que dans l'univers, il y a des formes de vie tellement diversifiées qu'elles ont pu se développer sur des registres très différents du nôtre. Donc la question, c'est est-ce que nos méthodes sont adaptées à la diversité qui peut exister dans l'univers, dans la mesure où même sur Terre, on a fini par se rendre compte que les civilisations humaines étaient très diversifiées et que c'était pas un signe forcément de bêtise ou d'arriération ou autre, et que surtout on découvre aujourd'hui que dans le règne animal, il y a tout un tas d'espèces qui existent à côté de nous, qui ne sont pas forcément juste des animaux sauvages, mais comme les cétacés ou les primates non humains, ce sont des êtres qui ont développé également des formes de culture, mais qui sont très éloignés de la nôtre.
Mais c'est ce que vous soutenez, ça, hein, Pierre Lagrange, justement, que si une vie extraterrestre même existait et devait, vraiment, avec vraiment des guillemets, être déjà parmi nous, on ne la verrait peut-être pas, on n'aurait peut-être pas les codes pour la déceler.
C'est ça. En fait, moi, mon impression, c'est que, justement, quand on observe la variété des formes d'intelligence, de culture sur Terre, et la variété, justement, des formes de vie et de ce qu'elles ont pu développer rien que dans notre environnement, on doit s'attendre à une diversité encore plus grande dans le reste de l'univers. Moi, je fais le pari que la vie est extrêmement répandue et très répandue depuis très longtemps, ce que beaucoup de scientifiques admettent. Et donc, ça pose un vrai problème en termes anthropologiques, c'est que on peut s'attendre à ce qu'il y ait des formes de vie tellement différentes de la nôtre que nous n'ayons absolument aucun repère intellectuel et outils techniques pour arriver à la repérer. Alors, ça rend la question passionnante, mais ça la rend aussi en partie insoluble, parce qu'on se dit comment s'y prendre. Et on est un peu dans une situation qui est proche de celle qui est décrite par Stanley Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où on est confronté à une forme d'intelligence qui est représentée par ce monolithe noir dans le film de Kubrick, qui est totalement incompréhensible et qui échappe à l'entendement humain.
Pierre Lagrange, je vous propose de continuer ce débat avec vous demain après-midi à 15h au Parc Gallet. Donc, vous êtes l'invité de la dernière conférence de la saison. On rappelle que vous êtes sociologue des sciences et vous êtes l'un des rares experts français à vous intéresser donc à la question des ovnis. Merci beaucoup, Pierre Lagrange, d'avoir été avec nous ce soir et puis à demain. Donc.
Merci, Pierre.
C'est votre jour de science dans l'actu.
L'actualité scientifique insolite, Fabrice.
Pas vraiment insolite, la mienne. En fait, elle est plutôt hyper morbide. J'ai pas trouvé mieux. Elle fait, en l'occurrence, partie des actualités. Alors, surtout, je m'inquiète pour vous parce que vous avez la trentaine, à peu près. Hein.
Un peu moins
que la trentaine. Bon, vous avez la trentaine. Vous êtes un homme et vous faites régulièrement des selfies.
Ah bon?
Alors, permettez-moi pour le coup de vous mettre en garde, car vous avez le profil parfait pour faire grimper les statistiques d'accidents dus au téléphone, qui se multiplient à une vitesse grand V ces trois dernières années. Une étude très sérieuse vient en effet de révéler, Christophe, que 43 personnes en moyenne, j'avais dit que c'était morbide, trouvaient la mort chaque année en se prenant en photo. Les selfies sont donc officiellement devenus plus meurtriers que les attaques de requins, avec par ordre d'importance la noyade, suite à des autoportraits pris trop près d'une mer démontée, les moyens de transport en deuxième position, avec ceux qui tentent de se prendre en photo au beau milieu des rails, juste avant qu'un train ne passe, se photographient au volant de leur voiture à 200 km/h sur l'autoroute, ou se penchent trop depuis le pont d'un bateau pour qu'entre sur la photo leur visage et la mer. Et puis enfin, en troisième position des accidents mortels, les chutes depuis les falaises, quand on recule un peu trop, vous savez, pour voir si tout est bien cadré. Alors ça fait cliché de vous dire tout ça, mais c'est pourtant véridique. 43 morts par an à cause des selfies. Et comme on est ici dans un studio d'RCFM, qu'on ne risque rien,
normalement.
Et que figurez-vous que je me suis aperçu qu'on n'avait pas une photo ensemble de cette émission depuis qu'on l'a fait.
Vous la prenez vous alors.
Alors je la prends moi, attendez, je mets le téléphone en mode, venez, je mets le téléphone.
Allez-y.
Et on n'est pas du tout photogénique. On a, pour le coup, on a vraiment, pour ce qui me concerne, je le vois,
physique de radio. Quand même, faut le dire.
Physique de radio.
Bon, après avoir plombé l'ambiance, Fabrice, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le fromage?
J'adore le fromage.
Alors, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Figurez-vous qu'un fromage millénaire a été découvert dans l'ancienne capitale égyptienne de Memphis. Une découverte que l'on doit une équipe de scientifiques. C'est dans la tombe de l'ancien maire de la ville, découverte en 1885 dans la nécropole de Saqqara en Égypte, que le fameux fromage a été trouvé. L'équipe scientifique composée d'archéologues a fait la découverte de pots cassés remplis d'une substance blanche mystérieuse. Cette substance s'est finalement avérée être du simple fromage. Et la découverte est probablement le plus ancien résidu archéologique solide de fromage jamais trouvé, figurez-vous. Alors imaginez-vous, Fabrice, que l'on puisse retrouver un bon cage au Vénaguez ou un excellent Newling qu'on fuit depuis des milliers d'années à Koukourouts ou à Filitos. C'est vraiment peu probable. En Égypte donc, cette découverte incroyable a inquiété tout de même les chercheurs, car notre fromage vieux de quelques milliers d'années recèle un secret plutôt dangereux. Après analyse, il a été révélé la présence de peptides associés aux produits laitiers produits par le lait de vache et le lait de brebis ou de chèvre, ce qui, dans le langage courant, se traduit par un très vieux fromage, traduisait un bon cage au Mars. Et de plus profond de recherches sur cette matière ont ensuite révélé la présence d'une bactérie en son sein. Les scientifiques l'ont identifiée comme étant une bactérie potentiellement mortelle pour l'homme, à vos risques et périls. Alors si ce fromage contient encore beaucoup de mystères, les pyramides au centre de la nécropole de Saqqara en Égypte en renferment sans doute encore. Bon appétit, Fabrice.
Bon appétit, mais moi j'aurais bien goûté celui-là.
On vous l'enverra la prochaine fois.
C'est votre jour de science. Ça se passe chez nous.
Un rappel, Fabrice, c'était le sujet de C'est votre jour de science cette semaine. Les ovnis atterriront demain sur la piste du parc Gallet à Théusolach, arrivée prévue à 15h.
Bah oui, avec des petits hommes verts, petits hommes bleus, petits hommes rouges, on va voir quelle couleur ils ont. Effectivement, ce sera demain avec les ovnis, les croyances et la recherche de vie extraterrestre au programme. Et puis c'est la dernière de la saison, on bosse déjà sur l'an prochain, ça va être génial.
Voilà, donc on atterrit à 15h pour les ovnis. Il paraît que le contrôleur aérien, ce sera Paul Simidei demain.
Il a déjà mis sa casquette.
Bon, très bien. Merci en tout cas au petit homme vert qui était derrière la console technique ce soir, Doumé Mourat. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, Fabrice. D'ici là, on retrouve l'émission en podcast sur bleurcfm.com.
Avec grand plaisir.
Bonne azir à toutes.
Ciao.